Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience, le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Bordeaux et la librairie Mola à Bordeaux aussi. Nous accueillons aujourd'hui Christian Grataloup. Christian Grataloup, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences ECHO, afin de mieux vous connaître, nous avons préparé un petit portrait chinois, comme d'habitude, sur les quatre lettres ECHO. Alors, si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Je crois que je suis devenu géographe dans un cours de SVT, on dirait aujourd'hui, en faisant une coupe géologique. Alors, vous voyez, c'est vraiment très pointu et ça ne va peut-être pas donner envie à beaucoup de me suivre.
Et à vous, c'est déjà ça.
Mais pense simplement, je me suis aperçu que je pouvais voir et penser en trois dimensions. Alors, à partir de là, ça change tout.
C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
De penser que tout est local.
H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Le livre s'appelle Géohistoire, c'est un mot de Fernand Braudel, donc je dirais Fernand Braudel, oui, la lecture de Fernand Braudel, je ne vois pas tout, mais beaucoup.
Et enfin, O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste ?
Je suis persuadé qu'on va s'en sortir pour rendre notre planète plus verte. Ça ne va pas coûter si cher que ça, si on le veut. Je prends souvent l'exemple des missiles qu'on tire actuellement en Ukraine. Un missile Patriot, ça coûte 3 millions à peu près de dollars. Et ça détruit un missile qui en coûte 2. Donc 5 millions de dollars détruits pour rien. Il suffirait d'utiliser cet argent. Voilà. Il suffirait.
Merci de vous être prêté à cet exercice. Alors Christian Grataloup, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Diderot. Vous avez enseigné aussi à Sciences Po, à Paris. Vous êtes également président du Conseil scientifique UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société. Et après avoir publié notamment trois atlas qui ont été des succès de librairie, que vous pourrez retrouver aussi au fond de la salle, vous publiez aux éditions des Arènes l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Dans ce livre, vous proposez une lecture de l'histoire des sociétés humaines à l'aune de la géographie et des dynamiques spatiales. Pour cela, vous convoquez à la fois la géographie, mais également la géologie, l'anthropologie, la démographie, l'économie. Et vous nous invitez à nous plonger, depuis l'apparition des sapiens jusqu'à la géopolitique contemporaine, dans une lecture historique des relations entre les différentes sociétés. Et dans les relations entre ces sociétés et leur environnement. Ces deux dimensions sont importantes entre les hommes et l'homme et leur environnement. C'est à la fois passionnant à lire et extrêmement éclairant pour mieux comprendre les moments clés, les charnières qu'ont constitué l'espèce humaine. Alors, avant de refaire avec vous ce voyage fantastique, que moi j'ai trouvé fantastique à la lecture en tout cas, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la géohistoire ? Parce que moi, quand j'étais jeune, je faisais de l'histoire-géographie, et pour être honnête, je faisais de l'histoire et je faisais de la géographie, je ne faisais pas de l'histoire-géographie. En quoi l'approche géohistorique éclaire-t-elle différemment l'histoire des sociétés humaines ? Avant de partir en voyage.
Oui, j'en veux beaucoup au trait d'union qu'on met entre histoire géo, comme on dit. Parce que je trouve que c'est la même chose. En fait, on s'intéresse aux sociétés. Ces sociétés sont dans un environnement... Alors, bon, je vais faire le geste postmoderne, dire naturel. Dans un environnement terrestre. Et d'autre part, ces sociétés ont des voisins. Donc, c'est bien les deux dimensions que vous avez évoquées. Comment comprendre l'histoire des sociétés sans ces deux dimensions ? Donc, c'est ça, la géohistoire, c'est penser géographiquement l'histoire.
Alors, vous commencez ce livre par rappeler que notre espèce est assez unique sur plusieurs aspects. Alors, le premier aspect, c'est qu'elle est présente partout sur Terre, sur le moindre îlot, sur tous les continents, alors très récemment en Antarctique, mais on est partout. Et ce n'est pas le cas des végétaux ou des autres animaux, qui, eux, ont souvent un milieu à eux, un espace géographique à eux. Comment se fait-il que, contrairement à toutes les espèces qui se cantonnent dans leur milieu naturel, l'espèce humaine ait pu dépasser les contraintes climatiques ou topologiques pour aller s'installer et s'adapter dans tous les milieux du monde ?
Oui, alors, nous sommes des primates. Il se trouve que, dans les mutations depuis à peu près 7 millions d'années, nous nous sommes spécialisés dans la savane arborée. C'est à cause de mutations climatiques conjuguées à des mutations biologiques. Il en tire une conséquence qui est notre station debout, c'est-à-dire que nous avons de très bonnes jambes. C'est vraiment le point fort de notre espèce avec la grosse tête. Mais la grosse tête est une conséquence aussi de la station debout. Alors à partir de là, il s'est produit un phénomène, c'est que nous nous sommes beaucoup déplacés. Simplement, comme tous les autres primates et comme tous les autres vivants, nous sommes normalement confinés à un milieu particulier qui peut être assez large, assez complexe, mais qui n'est jamais l'ensemble de la surface des terres émergées. Or, les humains ont pu sortir de leur milieu. Un exemple simple, je parlais de la savane arborée, ça veut dire un milieu sans hiver et même sans nuit froide. Il n'y a pas de froid. On ne peut pas, naturellement, je veux dire, quand on est à poil, quoi, on n'est pas adapté au froid. Donc, on mourrait assez vite si on n'était pas habillé, si on n'était pas dans un bâtiment et si on n'avait pas une source de chaleur. Donc, la maîtrise du feu, qui est unique, il n'y a pas d'autre espèce qui la maîtrise, le fait de pouvoir construire, certes, d'autres espèces construisent des nids, des tanières, mais d'avoir des bâtiments complexes, utilisant le feu, et d'avoir des vêtements sophistiqués. J'aime beaucoup raconter l'histoire de l'aiguille à chat, par exemple, qui est un élément essentiel pour la maîtrise des milieux froids qui nous a permis de peupler l'Amérique, par exemple. Eh bien, sans ces éléments-là, il n'y aurait pas des humains absolument partout. Ils sont ubiquistes, ils sont absolument dans tous les milieux. Donc ça, c'est un phénomène extraordinaire de cette espèce qui s'est répandue partout et qui, de ce fait, a accru les distances entre ses membres, entre les éléments de l'espèce. Et en même temps, on a un contraste, c'est pour ça que je dis que c'est un singulier pluriel, on a un contraste, c'est que nous sommes beaucoup de sociétés différentes. Avec la même espèce biologique, on fait beaucoup de sociétés très différentes les unes des autres. Rien à voir avec la différence qu'ont par exemple les sociétés de chimpanzés, qui sont des sociétés assez différentes, qui n'ont pas les mêmes langages, les mêmes outils les unes par rapport aux autres, mais rien à voir avec la différence entre des sociétés humaines. Et cette différence est due au fait que, pour faire société, c'est des sociétés très relativement limitées, au moins dans la surface au départ, c'est que nous avons tous besoin de proches. Alors, le mot « proche », pour un géographe, c'est un mot qui a un sens. Mais en même temps, c'est un terme qui ne signifie pas que de la distance kilométrique, qui signifie de la proximité entre humains, de la parenté, même si c'est une parenté en partie imaginaire, par exemple, des parrains. Donc, on a besoin de proches parce qu'on a une particularité liée à notre station debout, un phénomène biologique, c'est que nous sommes tous de grands prématurés. Nous sommes tous nés alors qu'on était particulièrement peu aptes à se développer immédiatement et être capable de s'en sortir. Par rapport à d'autres mammifères, comparé à vos petits chiots, vos chatons, hein, il faut quelques semaines, quelques mois pour être à peu près et capable de se débrouiller un peu tout seul. Pensez inversement à un petit humain, combien de temps il lui faut pour être capable de courir suffisamment vite devant un prédateur, par exemple, hein. Donc, si on a survécu, c'est qu'on était pris en charge très longtemps. Et aujourd'hui, ça devient le phénomène Tanguy, hein. Ça devient éventuellement des choses très très longues. Mais enfin, simplement, dans toutes les sociétés, il a fallu des années et des années pour que nous puissions être relativement autonomes. Et pour ça, il faut des proches, il faut être pris en charge, pas seulement par ses parents au sens le plus strict du terme, mais par l'ensemble d'un groupe social. C'est ce qui fait société. Donc, on est à la fois besoin, on a besoin d'avoir des distances très proches les uns des autres. Et en même temps, on s'est étendu à toute la surface de la Terre. Il y a donc là une sorte de contradiction, en tout cas de tension, qui fait que sur toute la Terre se sont développées de très nombreuses sociétés, très différentes les unes des autres. Et c'est pour ça que dans l'atlas qui est au milieu du livre, il y a une carte qui est centrale, c'est celle des langues. Parce que pour faire société, pour pouvoir créer ces liens qui nous permettent aux petits de survivre et ensuite aux humains, aux adultes de s'en occuper, eh bien, il a fallu avoir un langage commun. Alors certes, je disais les chimpanzés tout à l'heure, mais même jusqu'aux oiseaux, ils ont un langage commun qui se transmet, qui n'est pas entièrement biologique, hein, qui est en partie social, qui se transmet de toutes les espèces qui élèvent leurs petits, en fait, transmettent des choses qui ne sont pas, qui sont culturelles, modestement parfois pour les oiseaux, mais qui le sont un peu. Les humains, évidemment, c'est beaucoup. Donc on transmet ça à des petits, et entre autres, on leur transmet par l'intermédiaire d'un langage, d'une langue qu'on appelle d'ailleurs maternelle. Donc, ces langues, il suffit que deux groupes qui parlent la même langue au départ s'éloignent les uns des autres, n'aient plus de relation, et qu'il se passe un siècle, pour déjà, il n'y a plus beaucoup d'intercommunication possible entre les descendants des groupes qui, au départ, étaient un seul groupe. C'est ce qu'on appelle ensuite des familles de langues, parce que ces langues restent apparentées. Mais vous avez là une pluralité de langues. C'est pour ça que la carte que j'avais mise au centre de l'Atlas, c'est une carte des langues au XVe siècle. Au XVe siècle, parce que c'est le moment, c'est juste avant les connexions, dont on reparlera, je suppose, hein, ce qu'on appelait naguère les grandes découvertes, donc les connexions qui se font entre sociétés de manière importante, et au XVIe siècle, et à ce moment-là, il y a le maximum de diversité linguistique sur Terre. Les linguistes comptent que ça fait à peu près 17 000 types de langues. Aujourd'hui, on en est péniblement à 5 000, et il n'y en a guère qu'une centaine qui sont vraiment utilisées.
Voilà. Mais alors, vous dites qu'on est des sociétés très différentes, vous dites qu'on a des langues différentes. Par contre, on est la même espèce humaine. Vous dites qu'on est des primates, et pourtant, les primates, il y a des primates différents sur le continent africain que sur le continent insulaire, enfin, Bornéo, ou en Amérique. Par contre, on est très différents, mais on a gardé la même espèce. Est-ce que ce n'est pas aussi une des spécificités, des unicités, de,
tout à fait,
des unicités humaines ? Dans cette moment de géographie, on est tous, ce que vous dites, la caractéristique, c'est qu'on est interfécond.
Voilà. Ben, c'est ce qui prouve. Alors, l'unité de l'espèce, elle est constamment prouvée par l'interfécondité. C'est d'ailleurs, lorsqu'il y a eu un grand débat, on connaît par exemple, même si c'est historiquement un peu, disons, exagéré, le rôle de la controverse de Valladolid au milieu du XVIe siècle, où on a eu débat pour savoir si les Amérindiens, les populations qui habitaient depuis au moins 30 000 ans de l'autre côté de l'Atlantique, étaient bien des humains ou pas. Ça posait un grave problème théologique, qui était de savoir, mais d'où venaient ces humains ? Ils ne descendaient pas de Noé, comme normalement devaient descendre tous les humains. Évidemment, Noé descendant d'Adam.
Oui, parce que je me permets de préciser, parce que moi je l'ai découvert en lisant le livre, le problème théologique, c'est que la Bible dit que Noé a envoyé ses trois fils, un en Europe, un en Afrique, un en Asie. Mais à partir du moment où on découvre l'Amérique, tout d'un coup, qui ?
C'est ça, la question. Il manque un frère. Voilà.
Il manque un frangin qui aurait traversé. Voilà.
Effectivement. Alors, on sait. Donc, il y avait deux solutions. C'est ce que, dans ceux qui connaissent le vieux téléfilm qui s'appelle La controverse de Valladolid, c'est le rôle qui était joué par Jean-Louis Trintignant, d'être le théologien qui disait la logique théologique. Donc, ça ne peut pas être des humains, ces gens-là. Ça ne peut pas être des humains parce que ils ne peuvent pas descendre de Noé. Alors, on a cherché des tribus perdues d'Israël. Enfin, on a essayé d'inventer des récits. Mais bon, non, ça marchait pas bien. Et d'autre part, au contraire, son adversaire, Las Casas, qui est joué par Jean-Pierre Marielle dans le téléfilm, il défendait au contraire un point de vue de l'humanité des Amérindiens. Et le grand argument, qui a d'ailleurs été parfaitement repris par l'Église, c'est justement l'interfécondité. Parce que dès les premiers contacts, il y a eu des enfants nés des Amérindiennes et des Européens. C'est dans le rapport de genre, comme on dit aujourd'hui, était dans ce sens-là, évidemment. Donc, ces enfants étaient viables. Ils ont d'ailleurs été baptisés. Donc, de ce fait, l'Église ne pouvait que reconnaître l'humanité des Amérindiens.
Et pourquoi on n'a pas divergé génétiquement, comme l'ont pu faire les chimpanzés et les orang-outans ?
Parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps. La divergence entre les humains et les autres primates, donc les chimpanzés, qui sont nos plus proches cousins, c'est 7 millions d'années. On considère que c'est à peu près à ce moment-là que les australopithèques, qui ne sont pas encore des humains à proprement parler, mais qui sont les premières espèces qui vont éventuellement, parmi lesquelles il va y avoir des humains, c'est à ce moment-là qu'il y a divergence. Les humains véritablement, c'est-à-dire qu'on a nos caractéristiques, on considère que c'est de l'ordre de 2 millions d'années. Donc c'est relativement tardif à ce moment-là. On les appelle d'ailleurs homo. Et c'est pour moi ce qui me semble typiquement le propre de l'humain, c'est que justement, c'est à ce moment-là qu'ils vont se diffuser sur l'ensemble de la surface de la Terre. C'est à partir du deuxième million d'années avant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à maîtriser le feu, maîtriser des moyens de se réchauffer et de tenir le froid à distance. Et donc de peupler toute la Terre. Alors ça met du temps, hein, puisque finalement, l'Australie ne sera peuplée qu'il y a 60 000 ans, à peu près. Et puis l'Amérique, c'est 30, maintenant on dit jusqu'à 40 000 ans, mais enfin, c'est quelques dizaines de millions d'années. Donc, un peuplement si récent, ça n'a pas laissé le temps. J'aime bien faire des uchronies à la fin des chapitres du bouquin. La toute première uchronie, c'est de dire, et si on était devenu la planète des singes ? C'est-à-dire s'il y avait plusieurs espèces sur la même planète qui cohabitaient dans une même civilisation, enfin une même humanité, si j'ose dire. Il aurait fallu du temps. C'est-à-dire que si effectivement on avait peuplé l'Amérique, et puis que l'Amérique s'était coupée, parce que le niveau de la mer serait remonté, bon, il y a des scénarios géologiques tout à fait plausibles, effectivement, on aurait eu une évolution humaine sur 2 millions d'années en Amérique, qui aurait donné une espèce assez différente de celle des sapiens, qui se serait développée dans l'Ancien Monde. Et de ce fait, quand Colomb serait arrivé, il aurait trouvé des êtres vivants qui auraient été des humains, mais qui auraient été très différents, et ils n'auraient pas été interféconds à ce moment-là. Donc il y aurait eu deux humanités sur Terre. Non, il n'y en a qu'une, parce qu'on s'est diffusé récemment. Une seule humanité, ce qui élimine toutes les questions racistes, d'ailleurs, de ce fait, au sens biologique du terme. Et du racisme social, hélas, ça existe bien. Mais et en même temps, une multitude de sociétés.
Alors, je vous propose d'avancer dans l'histoire, parce qu'elle est longue. On est à la fin du paléolithique, ça y est. L'espèce humaine s'est adaptée, s'est installée sur tous les continents. On l'a vu, une seule espèce, un peu partout. Évidemment, je le dis le terme, parce qu'on va le retrouver, moi je ne le connaissais pas, l'Euphrasie, c'est-à-dire l'ancien monde, c'est-à-dire Afrique, Asie, Europe. si je ne me trompe pas, avec l'insulinde aussi, la côté pacifique, c'est ça ? L'euphrasie ?
Oui,
clarifie ce terme.
Je peux dire deux mots de l'euphrasie, si vous voulez.
Allons-y, parce qu'on
Parle. Bon, il se trouve que il y a déjà quelques temps, enfin, j'en ai fait une réédition il y a 4 ans, j'avais écrit un bouquin sur le découpage du monde en continents, qui est une histoire totalement culturelle. Il n'y a aucune géologie là derrière. Hein. Il se trouve qu'en il y a 2000 ans, 2500 ans, en Méditerranée orientale, on s'est mis à distinguer les rives. Même d'ailleurs, les Grecs distinguaient une rive est et une rive ouest de la mer Égée, vraiment leur petit monde à eux, disant la rive est c'est l'Asie, la rive ouest c'est l'Europe. Et sur des mots d'origine phénicienne qui signifiaient en gros l'est et l'ouest. C'est des directions. Et puis au Moyen-Âge, on a inventé une map monde qui découpe le monde en trois parts inégales, pour correspondre aux trois fils de Noé. C'est le monde peuplé, l'écoumène des Grecs. Donc on a dit, ça va s'appeler, on a repris des vieux mots antiques, Asie, Afrique, Europe, qui avaient des origines toutes différentes. Afrique, c'était le nom de la province romaine qui correspond en gros à la Tunisie actuelle. Tunisie, qui en arabe s'appelle Ifriqiya, d'ailleurs. Hein. Donc, à partir de là, on a fait ce découpage qui progressivement était imposé au reste du monde. Alors évidemment, en 1507, on a inventé un mot pour désigner un truc qui ne collait pas et qui s'appelle Amérique à ce moment-là. Mais c'est totalement culturel, hein, ce type de division. Or, ça pose un problème, c'est qu'on a tendance, ça devient des catégories intellectuelles extrêmement fortes. Moi, j'ai enseigné à Dakar, et je me souviens que j'aimais beaucoup dire le mot Afrique est une catégorie culturelle européenne. Si vous dites « nous, Africains », c'est pas simple d'utiliser ce terme. Et donc, pour éviter ça, et pour prendre en compte cette réalité qu'on a appelée « ancien monde », et qui est une réalité vue d'Europe, là encore, nouveau monde, ancien monde. Donc ce continent, au sens ancien de la géographie, c'était ce mot qu'on utilisait pour dire continent, Europe, Afrique, Asie, on disait partie du monde. C'était plus clair comme vocabulaire, mais c'est parti, c'est disparu. Donc ce vaste continent, qui a une même histoire depuis très très longtemps, j'ai utilisé ce terme, dont je ne suis pas l'inventeur, qui est Europe, Afrique, Asie, Euphrasie. Voilà.
Voilà. Merci pour cette précision. Donc, on a envahi toute l'Euphrasie, on est même en Amérique, on est au néolithique, on a ce premier nœud historique de l'histoire humaine avec le passage au néolithique, la domestication, la sédentarité. Vous notez que qu'un phénomène comme la domestication des plantes et de certains animaux se déroule quasiment simultanément dans des foyers séparés sans forcément de communication entre ces foyers. C'est très étonnant. Pourquoi ça se passe à ce moment-là dans différents foyers et comment expliquer cette synchronicité d'un phénomène qui bouleverse l'humanité au même moment, on parle à quelques milliers d'années.
Alors, c'est pas une question qui est très stabilisée sur le plan scientifique. Je veux dire, par là, on n'y aura pas forcément accord. Alors, on peut toujours imaginer une espèce de révolution biologique chez les humains, qui serait dans ce cas-là tous les humains sur Terre en même temps, ce qui, comme ils sont déjà beaucoup dispersés, c'est un peu bizarre. C'est ce qu'imagine Harari, hein, je veux dire. Bon, ça n'a aucun fondement scientifique. Mais le plus simple, c'est d'abord de constater que tout se passe dans la période interglaciaire qui commence. Jusqu'à moins 20 000 ans, moins 17 000 même précisément, il fait très froid. Donc on a une humanité rare, c'est de l'ordre de 1 à 2 millions d'humains sur Terre. Je vous rappelle que nous sommes 8 milliards. Donc on a une humanité certes dispersée, mais peu nombreuse, mais dans le même contexte climatique. Et partout, la Terre se réchauffe, les mers remontent. C'est un phénomène essentiel, ça sera sans doute l'idée du déluge. Et à partir de là, il y a des contextes différents qui imposent de faire des changements sociaux forts. Donc ça, c'est ce contexte qui n'aboutit pas partout. Hein, beaucoup de sociétés restent plutôt des chasseurs-cueilleurs, d'autres vont alterner. Ça, c'est un point important qu'on commence à bien connaître archéologiquement aujourd'hui, c'est bien se rendre compte qu'il n'y a pas tout d'un coup cette idée d'un progrès qui serait l'apparition de l'agriculture, qui n'est pas forcément un progrès, qui n'est pas forcément non plus une régression, comme le pensent parfois certains écologistes extrêmes, je dirais, aujourd'hui. Donc vous avez ces modifications qui se produisent. Le fait essentiellement, c'est qu'elles se produisent dans l'Euphrasie en plusieurs endroits, en Méditerranée orientale, on pense bien sûr aux croissants fertiles, comme on a appelé, mais aussi en Chine du Nord, sans doute dans le bassin du Gange, et puis surtout dans des lieux qui ne vont pas donner de grande diffusion, comme la Nouvelle-Guinée. Dans des montagnes de Nouvelle-Guinée, il y a 10 000 ans, on domestiquait des plantes, on en a retiré entre autres la banane d'ailleurs, qui n'ont eu ensuite qu'une diffusion extrêmement restreinte, alors que le blé, la vigne, l'olivier, enfin tout ce qui a été domestiqué dans le croissant fertile, là évidemment ça a eu un devenir très lointain. Et puis en même temps, il y en a en Afrique et surtout en Amérique. Donc ça prouve bien qu'il y a une simultanéité relative, ça se passe en quelques milliers d'années, de processus qui vont se prolonger longtemps. Ça continue, dans une certaine manière, le néolithique, on continue à domestiquer de nouvelles plantes, à avoir de nouveaux rapports avec des animaux. Mais ce phénomène, c'est évidemment un bouleversement essentiel. Ça, à condition qu'il aboutisse à de fortes densités. Mais on y reviendra peut-être.
Alors vous insistez sur la domestication et sur le caractère structurant de l'avenir des sociétés humaines avec les domestications, en insistant sur le fait qu'il y a des humains partout, on n'a pas les mêmes animaux dans les différents continents et on ne domestique pas les mêmes choses. Je fais juste une aparté, il y a une carte, j'ai bien regardé, hein, les deux plus anciennes choses domestiquées, c'est la vigne et le tabac. Je me suis dit, c'est quand même un signe. Sur deux continents séparés, je me suis dit qu'on n'était pas quand même une espèce...
Vous avez raison pour les plantes, parce que pour les animaux, c'est le chien.
Le chien.
Ça, c'est le loup qu'on a transformé en chien. Ça, c'est 30 000 ans. Hein. C'était vraiment dans le paléolithique où on a progressivement transformé des petits loups en chiens, avec une histoire que maintenant, on pense une co-domestication, c'est-à-dire que les loups avaient intérêt à chasser avec des humains, et les humains avaient intérêt à chasser avec des loups, et qu'il s'en est passé des éléments un peu de croisement, non pas que des humains et des loups ont donné biologiquement un animal, mais qu'ils ont transformé un peu des loups, et des loups se sont transformés au contact des humains, ce sont nos chiens. Voilà. Mais pour les plantes, vous avez parfaitement raison, c'est important, effectivement, là, d'avoir une géographie de ce néolithique, ou de ces néolithiques, plutôt. Parce que si les humains étaient déjà partout, et de ce fait, puisqu'ils s'étaient diffusés il y a, disons, pour certains, moins de 30 000 ans, les chiens aussi étaient partout, sauf en Australie. Ils sont arrivés très, très tard. Ils n'ont pas su les utiliser. D'ailleurs, les humains, ça donnait les dingos. Bon, mais si on élimine les aborigènes australiens, il y avait des chiens partout, hein, y compris en Amérique. Et vous avez, à part ça, vous avez, au contraire, pas les mêmes dotations, comme on dit parfois, naturelles. C'est-à-dire que des plantes qui vont nous donner des céréales, il y avait du riz, il y avait du blé dans l'Ancien Monde, et il y avait du maïs en Amérique. Ça ne va pas donner les mêmes formes de société. Il n'y avait pas les mêmes types d'arbres qu'on a pu domestiquer. Et surtout, la différence est très nette, c'est pour les animaux. C'était pas étonnant, les animaux domesticables, c'est-à-dire faciles à transformer, qui ont des possibilités, des mutations génétiques qu'on va utiliser, parce que si vous pensez à un auroch aujourd'hui, enfin, il n'y en a plus, mais une vache paisible qui va, je ne parle pas d'un taureau de combat, hein, d'une vache qui va suivre le troupeau, qui va se laisser traire, etc. Avec un auroch, on a du mal à imaginer comment on a pu passer de l'un à l'autre, mais on l'a fait. Même remarque pour le cheval, qui est un des animaux qu'on a domestiqué parmi les plus tard, il y a 5000 ans, le cheval, c'était pas facile de domestiquer. On a d'ailleurs échoué, hein, et on a finalement recommencé. Les descendants du premier échec, c'est ce qu'on appelle les chevaux de Przewalski, hein, c'est pas un chevaux particulier. Donc vous avez des animaux, des grands mammifères en particulier, qui étaient domesticables dans l'Ancien Monde, dans l'Euphrasie, cheval, vache, chèvre, mouton, dromadaire, qui ont joué un rôle essentiel. Hein, pensez au cheval comme pour maîtriser les distances, le dromadaire aussi, et puis pour la guerre, d'ailleurs, également.
Oui,
pour tirer.
Et les animaux de trait aussi.
Et pour tirer, également. En Amérique, bah rien. Pratiquement rien. Le lama, la famille des lamas, l'alpaca, le dindon, enfin bon. Alors, est-ce que les sociétés n'avaient pas voulu domestiquer des animaux, ou plutôt les animaux y étaient peu aptes à cette domestication? On penche plutôt pour la seconde solution. Hein. Mais enfin, on pourrait imaginer qu'il serait produit autre chose. C'est un élément qui a créé de grandes différences, pas forcément des inégalités, mais de grandes différences. Penser que effectivement, on a construit sans bœufs, sans chevaux, on a pu tirer toutes les pierres des pyramides aztèques. Bon, cela dit, les pyramides égyptiennes, c'est pas les chevaux, c'était avant. C'est pas les chevaux qui ont tiré les pierres.
Alors, on a longtemps considéré que les sociétés autres que celles qui avaient développé une écriture et que nous pouvions comprendre facilement étaient des peuples que vous appelez sans histoire.
Ça, c'est quelque chose sur lequel... C'est pas moi qui les appelle comme ça.
Non, mais c'est les gens les appellent peuples sans histoire, et vous luttez justement contre cette idée aussi, en disant, attention, on se rend compte que dans cette géographie mondiale, ces sociétés, ces peuples sans histoire, je remets des guillemets dessus parce que c'est pas justement ce que vous démontez, étaient extrêmement riches et foisonnants. Et ça, c'est des découvertes assez récentes de cette richesse à ce moment du néolithique. Vous parlez de l'Amazonie notamment et des peuples de l'insule Inde. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement de ce foisonnement qu'on est très, nous, centré sur notre écriture, le croissant fertile
Sans histoire, ça s'inscrit dans une vision qu'on peut appeler aujourd'hui progressiste, c'est-à-dire l'idée du progrès, hein, l'idée qui s'est bien cristallisée au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, avec l'idée qu'il y a une espèce de progrès de l'humanité, dont le néolithique, terme lui inventé au contraire dans la seconde moitié du 19e siècle, mais dont le néolithique serait très probablement une des grandes étapes. Après, il y aurait la révolution industrielle. Donc l'idée qu'il y a un progrès, et donc l'une des étapes essentielles, c'est l'acquisition d'une société civilisée, de civitas, de la ville, à partir du moment où on a inventé la ville, avec un des corrélats essentiels de la ville, qui serait non seulement le stockage, la différenciation sociale, les spécialisations de métiers, mais aussi l'écriture, c'est-à-dire le stockage de la pensée externe, des mémoires externes de la pensée. Et les historiens au 19e siècle ont bien fixé une limite en amont de l'histoire, en disant bah, avant, il n'y a pas d'histoire, ou il y a des processus très très lents qu'on ne va pas appeler histoire, parce qu'on n'a pas de texte. Donc on ne peut pas écrire l'histoire parce qu'on n'a pas de texte, mais au fond, c'est peut-être pas si grave parce que ces sociétés n'avaient pas vraiment d'histoire. Et les peuples qui étaient sans écriture, ou qu'on croyait sans écriture, ce qui est parfois... parce que moi, je suis cartographe, donc je dirais que toutes les sociétés font des cartes et que c'est une écriture. Mais en tout cas, les sociétés classées comme sans écriture que découvraient les Européens avec les colonisations, les peuples qu'on veut étudier, les ethnographes, au 19e siècle. Donc ces peuples qu'on appelait tout simplement sauvages pendant longtemps, eh bien, ces sauvages étaient sans histoire. Donc on racontait pas leur histoire, ou de toute façon on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas de texte. Mais évidemment, on a progressé entre autres en archéologie. Et aujourd'hui, on sait d'une part que ces sociétés ont eu tout un processus historique, qu'ils ont laissé énormément de traces, et que finalement, on s'est beaucoup trompé là-dessus. Alors, je vais donner un exemple qui est plus frappant, c'est l'Amazonie. Et au 19e siècle, je pense que beaucoup d'entre nous encore ont cette image en termes, on a vu une espèce de forêt impénétrable ou difficilement pénétrable qu'on a appelée une forêt vierge. Avec l'idée qu'une forêt était vierge, puisqu'elle n'avait pas été coupée, travaillée, transformée, replantée par des humains, à la différence des forêts qu'on avait en Europe. Et c'est complètement faux. Et il se trouve que la forêt au 15e siècle, que le monde, cette grande cuvette du fleuve Amazon, était évidemment largement peuplée d'arbres, parce que ça correspond au milieu naturel, ça correspond à la pluviométrie de cette région, mais était aussi très largement peuplée d'humains et de cultures des humains. On a aujourd'hui, on retrouve des restes de la Terra Negra, c'est-à-dire des terres qui ont été créées par des populations pour en faire des zones de forte culture. On s'aperçoit que des plantes comme le cacao, par exemple, qui a été largement développé en Amérique centrale, c'est là que les Européens l'ont connu, mais est originaire d'Amazonie, ainsi que le manioc, par exemple. Donc des plantes importantes. Et donc on a des sociétés qui étaient des sociétés d'agriculteurs anciennes, qui avaient transformé la forêt, et que finalement, on peut faire une archéologie aujourd'hui auquel on ne pense pas forcément, parce qu'on pense à l'archéologue comme quelqu'un qui a des rapports avec les pierres. Mais là, c'est des rapports avec les arbres qui sont importants. Parce que les arbres qu'on plantait ou qu'on conservait, car c'est souvent comme cela que les choses se transformaient, on aurait d'autres exemples au Japon, c'était de sélectionner dans les plantes, les arbres qui poussaient naturellement dans une forêt, celles qui étaient intéressantes pour les populations qui vivaient dans ces forêts-là. On éliminait des plantes qui n'étaient pas intéressantes et on gardait des plantes qui l'étaient, pour soi, pour d'autres animaux, etc. Et donc, les plantes qui, au 15e siècle, ont été sélectionnées, voire plantées par des populations amérindiennes, des arbres, beaucoup de ces arbres sont toujours vivants. Donc voilà, une forme d'archéologie à laquelle on ne pense pas forcément. Donc aujourd'hui, on se rend compte que l'Amérique du 15e siècle était profondément différente de l'image qu'on en avait il y a encore quelques dizaines d'années. Alors c'est vrai, en Amazonie, elle était beaucoup plus peuplée qu'on ne le pensait. C'est vrai aussi dans les plaines d'Amérique du Nord, où on a des sociétés qui nous ont laissé des traces. On appelle ça les mound builders, les constructeurs de collines. Des grandes constructions qui étaient essentiellement en terre, et qu'on connaît dès le 16e, 17e siècle, où elles étaient encore un peu vivantes, d'ailleurs, ces sociétés, et qui ont peuplé toute l'Amérique du Nord, et qui étaient très, très différentes des sociétés d'Amérique centrale, des Aztèques, des Mayas, si vous voulez. Et donc, ces sociétés, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont, pendant quelques dizaines, quelquefois un ou deux siècles, dizaines d'années, quelquefois un petit peu plus, donc, elles ont donné des espaces, des régions relativement denses, avec des villes qui pouvaient dépasser plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Et puis, un siècle après, elles ont disparu. Mais ailleurs, on les revoit. On a des sociétés qui ont été agricultrices, puis de nouveau, qui ont pratiqué la chasse et la cueillette, qui sont passées de l'un à l'autre. Un modèle qui ne correspond pas du tout à l'idée du progrès que j'avais évoqué. Donc on est dans des sociétés où la notion d'histoire n'est plus tout à fait la même. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a plusieurs possibles. Hein, on aurait eu, non seulement il y a pu y avoir d'autres possibles, mais qu'on peut avoir des rapports à des modes de culture ou d'agriculture qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a plutôt magnifiés depuis quelques siècles.
Alors on a tous cette myriade de sociétés, mais il y a quand même un ensemble cohérent, si je prends la période néolithique jusqu'au 15e, il y a un ensemble cohérent que vous décrivez vraiment, que vous appelez l'axe. L'axe au sein de l'Euphrasie, qui est l'axe qui va de l'Europe jusqu'au Japon, qui lui forme un ensemble cohérent d'échanges, d'une mélange d'empires et de ce que vous appelez ce qui s'appelle des économies mondes. Je vous dirai ce que c'est des plus petits pays. Enfin bon. Et cet ensemble cohérent, l'axe, lui, il a sa propre dynamique et il a son propre développement, pas homogène, mais en tout cas très intercorrélé, beaucoup plus que les autres.
Oui, alors dans le mot axe, il faut voir évidemment strictement aucune nostalgie de l'alliance d'Hitler et de Mussolini, hein, strictement aucun rapport. Hein. Bon, généralement, je dis l'axe de l'Euphrasie ou l'axe de l'Ancien Monde, si je ne veux pas utiliser un mot un peu barbare, mais c'est plus simple, hein, quand j'ai fait tout un chapitre là-dessus, donc c'est plus simple de parler de l'axe. Alors, je disais tout à l'heure, j'évoquais brièvement une des questions de démographie, parce que je regrette qu'on n'ait pas encore vraiment abordé ce point, c'est important.
C'est votre conférence. Hein,
je disais, on était quelques millions d'années il y a 10 000 ans, quand on a commencé à domestiquer des plantes et des animaux. Il y a 2000 ans, donc au tout début de notre ère, on était à peu près 250 millions. Donc vous voyez, il y a 4000 ans, on était à peu près 100 millions. Et il y a eu une accélération. Pourtant, ces chiffres 100 millions, par rapport à nos 8 milliards, c'est dérisoire. Donc on a ce processus d'accélération qui s'est produit et qui crée, comme les économistes appelleraient ça, un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on est très dense, on ne peut pas du tout, comme à la différence des peuples d'Amérique du Nord que je décrivais tout à l'heure, revenir en arrière. Encore, j'ai tort de dire en arrière, c'est dans un modèle linéaire d'évolution où on passe automatiquement à l'agriculture. Donc on ne peut pas changer, parce que si on change, si on fait des innovations, on va crever de faim. Donc la rizière est pour moi le comble, les sociétés rizicoles, avec un aménagement du territoire très complexe, énormément de travail. Il n'y a pas plus de boulot, on n'a pas inventé société plus laborieuse que les sociétés rizicoles, de riziculture inondée, j'entends. Donc vous avez là des sociétés qui ont des possibilités de transformation plus difficiles, plus douloureuses, et qui sont très denses, et qui en plus génèrent des densités de plus en plus fortes. C'est ce qui se passe dans le cœur de l'Ancien Monde, dans cette écharpe de société qui s'étend depuis des millénaires, de la Méditerranée aux mers de Chine. Donc le monde méditerranéen qui donne notre antiquité, au sens classique du terme, avec des Égyptiens, des Mésopotamiens, Sumériens, Phéniciens, Grecs, Romains, qui, au bout d'un certain temps, va s'étendre progressivement, et ce qui est au nord va s'autonomiser, ça devient l'Europe, quelque part vers le 4e, 8e siècle de notre ère, et puis ça se sépare de ce qui est un peu plus au sud, qui va devenir le monde arabe des musulmans. Donc vous avez toute cette partie ouest, vous avez le monde iranien, vous avez le monde indien avec l'Asie centrale, et puis au-delà de l'Himalaya, vous avez le monde chinois et ses proximités japonaises, coréennes, vietnamiennes. Bon, on a, et l'insulinde d'ailleurs aussi, en gros l'Indonésie actuelle, vous avez cet ensemble qui forme de très très fortes densités et qui sont jointives. La seule fission, la seule coupure un peu nette, c'est l'Himalaya, dont il ne faut pas exagérer quand même le rôle de coupure, parce que sinon le bouddhisme, né en Inde, ne serait pas la forme matricielle dominante des religions chinoises, coréennes, japonaises, etc. Donc vous avez ce monde qui est en connexion depuis évidemment 2000 ans, mais beaucoup plus. Au cœur, là aussi, dans l'Atlas, il y a cette écharpe de sociétés de l'Empire romain à l'Empire Han, parce que c'est un moment où les grandes sociétés se sont bien structurées. Mais avant, il y avait déjà énormément de connexions. Par exemple, dès le 5e, 4e siècle avant notre ère, on cultivait du blé dans le nord de la Chine. Et le blé est un hybride inventé dans le croissant fertile, inventé en Mésopotamie à partir d'une graminée et d'une autre plante, de l'épeautre et d'une autre plante. Donc vous avez là quelque chose qui est une diffusion De même que ultérieurement, ça prendra d'ailleurs quelques millénaires, si des pruniers ou des cerisiers sont cultivés, qui sont des innovations chinoises, sont cultivés au bord de la Méditerranée, c'est aussi qu'il y a eu diffusion. Donc il y a constamment circulation. Les routes de la soie, quand elles deviennent un peu formalisées avec l'Empire Han, c'est ne fait que reprendre quelque chose de très ancien. D'autant plus que ces routes qu'on appelle de la soie sont terrestres, hein, c'est les steppes. En gros, l'axe des steppes avec des cavaliers qui ont domestiqué le cheval, qui est un animal local. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe sur les mers, en cabotage d'abord, puis en inventant un peu de navigation en haute mer, c'est l'océan Indien. Pas oublier qu'on dit souvent la Méditerranée. J'ai évoqué Brodel tout à l'heure. La Méditerranée, c'est le cœur de l'histoire. Ben non, c'est le nord de l'océan Indien. Et entre autres, parce que ce phénomène naturel extraordinaire, qu'il suffit, quand on est en été, de mettre sa voile et on part vers l'est. Et si vous êtes en hiver, vous tendez votre voile et vous partez vers l'ouest. C'est les moussons. Donc, à partir de ce moment où il est très facile de circuler, vous avez le cœur de cet élément, dont la Méditerranée à l'ouest et les mers de Chine à l'est sont un peu les prolongements. Alors, ça forme une circulation maritime, et je l'ai évoqué d'abord terrestre, qui fait que toutes ces sociétés sont en communication, et de plus en plus. Donc, c'est là aussi où on a ces densités qui deviennent extrêmement importantes. Il y a 4000 ans, c'était 70-80% des humains. Et aujourd'hui, si vous allez de Gibraltar au Japon, ben vous avez de nouveau 75% des humains, avec la Chine et l'Inde, le monde européen. Enfin bon, c'est de loin le plus important. Donc c'est là où vous avez le maximum de connexions, d'interrelations, de liens pour le meilleur des éléments culturels. Par exemple, c'est l'axe des écritures que nous connaissons. D'autres sociétés ont inventé des écritures. Les Mayas sont sans doute les plus connus. Mais vous avez les modalités d'écriture, avec là l'Himalaya qui a joué un rôle, puisque c'est idéographique à l'est et alphabétique à l'ouest. Tous les alphabets sont cousins et descendent de ce qu'on a inventé en Méditerranée orientale il y a 3300 ans à peu près. C'était en 1300 avant notre ère. Donc, vous avez des communications pour des aspects techniques comme je parlais des plantes ou des animaux, hein, le cheval, qui sont bénéfiques. Et vous avez aussi, bien sûr, des choses qu'on souhaite moins, parce que la proximité, c'est le commerce, mais c'est aussi les voies commerçantes sont les voies de guerre, les voies d'invasion. C'est les mêmes, d'ailleurs, qui jouent souvent le même rôle, hein, les cavaliers qui transportent les marchandises, mais qui peuvent être aussi les envahisseurs. Puis surtout, c'est petit à petit un même bassin épidémiologique. On en a eu la manifestation particulièrement claire au XIIIe et au début du XIVe siècle, quand la peste noire s'est répandue, qui était diffuse en Asie centrale, et s'est répandue en Chine d'abord, puis en Inde, dans le monde, la Méditerranée orientale, et finalement en Europe, en tuant partout au moins un tiers de la population. C'est du lourd, ça. Hein, c'est pas le Covid. Hein, et vous avez ce phénomène qui a créé ce qui témoignait en tout cas de ce même bassin épidémiologique. Ce qui aura d'énormes conséquences quand l'Amérique va rentrer dans les contacts. Hein. Donc vous avez là cet axe qui est de loin l'ancêtre de toutes les mondialisations.
Axe au passage, avant de passer à la grande bifurcation, donc vous précisez qu'il est longitudinal. Et que le fait qu'il soit horizontal géographiquement favorise énormément les échanges par rapport à l'Amérique qui est verticale.
Alors bon, j'ai emprunté à Jared Diamond cette idée. Je la présente plutôt comme une hypothèse, mais c'est vrai que c'est pas absurde. Je dis pas qu'on est dans les mêmes milieux quand on est en Méditerranée, en Iran, en Inde du Nord et puis ensuite en Chine, mais effectivement, il se trouve qu'il y a des éléments naturels qui facilitent les échanges et que, au contraire, quand il faut passer de régions très froides à des régions tempérées, puis chaudes, puis froides, etc., si vous passez l'Amérique du Nord au Sud, cela dit, l'Amérique a été peuplée il y a 30 000 ans, justement, du Nord au Sud, puis du Sud au Nord, d'ailleurs, il y a des mouvements rétroactifs, sans que ce soit forcément. Donc, je suis prudent là-dessus. Hein.
D'accord. Donc, on arrive à un autre moment de l'histoire. Là, je le mets entre guillemets, la découverte de l'Amérique, puisque vous venez de le préciser, il y a 30 000 ans quand même que ce truc-là a été...
Bien sûr, par la vraie découverte, c'était il y a 30 000 ans. Voilà.
Mais je n'ai pas d'autres mots là, sous la main. Donc, la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, qui marque une rupture, on le sait tous, on l'a tous appris. Vous parlez même de bifurcation. Oui. Du monde, et vous abordez la question du rôle de l'Europe. Et dans votre livre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est pourquoi l'Europe s'est intéressée à l'Amérique, pourquoi c'est l'Europe qui y est allée, qu'est-ce qui a fait que l'Europe tout d'un coup avait ce besoin d'aller de ce côté-là et de s'ouvrir des nouveaux horizons, qui était la mécanique qui a fait que tout d'un coup, cette Amérique a intéressé l'Europe et on s'est dit, il faut y aller.
Ben, il y a un instant, je parlais de cette première monde, enfin, de ces ancêtres de mondialisation qui étaient les liens dans l'axe de l'ancien monde. Il était à peu près inévitable que là où il y avait la majorité de la population et le maximum de connexions, ben, à un moment, les autres sociétés qui avaient divergé, hein, qui avaient d'autres histoires en Amérique, en Australie, dans Polynésie, on n'a pas parlé des Polynésiens, mais c'est important, et puis même au sud du Sahara, toutes ces sociétés allaient de nouveau entrer en contact, être reconnectées, puisqu'au fond, c'était toujours une même humanité, être reconnectées. Ce que les Européens ont appelé, puisque eux, c'est eux qui ont été les acteurs, ça aurait pu être d'autres, hein, mais ça a été les Européens, des découvertes. Alors aujourd'hui, ce mot n'est pas très politiquement correct, mais pour une raison effectivement juste, c'est qu'ils ne sont pas découverts. Ce qui est important, c'est qu'ils sont connectés. Donc là moi j'aime bien parler de connexion, d'un moment de connexion qui est important. Il se trouve que le XVIe siècle est un grand moment de connexion, en particulier de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, ça aurait pu être d'autres. Ça a bien failli être d'autres. On a entre autres l'histoire chinoise du début du XVe siècle, donc 70 ans avant Colomb, qu'on appelle les navigations de l'amiral Sheng He. Enfin, je vais mal le prononcer. Donc, ça s'écrit Sheng He en français. Donc, qui sont des grands voyages qui partent de l'actuelle région de Canton, enfin pas de Canton, de Nankin, là, dans le centre de la Chine, et qui vont aller non seulement en Insulinde, que connaissaient bien les Chinois, où il y avait déjà de grosses communautés chinoises depuis au moins 500 ans, et puis ils vont traverser tout l'océan Indien, aller en mer Rouge, comme Sheng He est lui-même musulman, en fait c'est pas un Chinois d'origine, c'est d'origine mongole, il va même aller jusqu'à la Mecque, et puis surtout, ils vont aller en Afrique, jusqu'à peu près le canal du Mozambique. Il y a 7 grands voyages qui sont faits avec des moyens colossaux. On considère qu'il y avait à peu près 30 000 personnes concernées sur des centaines de bateaux, des bateaux qui étaient les plus grands bateaux en bois, pour certains en tout cas, les bateaux trésors, comme les appelaient les Chinois, qui n'ont jamais été construits. Et que 30 000, je vous signale que l'équipage des trois premiers, des petits bateaux de Colomb lors de son premier voyage, c'était 105 marins, Colomb compris, hein. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Simplement, Sheng He, en 1433, ben lui, il est mort, mais l'Empire a décidé que c'était fini. On a arrêté les voyages. Mais s'ils avaient continué, ben, très probablement, puisque les Portugais, au même moment, commençaient à longer, mais très, très modestement, les côtes de l'Afrique, ben, très probablement, les jonques chinoises seraient arrivées à Lisbonne bien avant que Vasco de Gama arrive en Inde. Donc on aurait eu une autre histoire. Et comme quand on est dans l'Atlantique, on est plutôt poussé vers l'ouest, comme ce qui est arrivé aux Portugais, donc ils auraient aussi abordé l'Amérique. Donc on aurait pu avoir une autre histoire. La différence, j'aime souvent le dire, c'est pas le premier voyage qui est important, c'est le second. C'est l'idée de retourner. Parce que Colomb part pour essayer d'atteindre les îles à épices. C'est le point essentiel, les Portugais ont trouvé le chemin, c'est contourner l'Afrique. Et donc, on arrive dans l'océan Indien que connaissent bien les Européens, puisqu'ils ont ils commercent à partir de l'Égypte, hein, et même des Vénitiens ont circulé dans l'océan Indien avant. Donc, ils connaissent ces routes, et en contournant l'Afrique, qui a été beaucoup plus grande qu'ils ne le croyaient, ça les a beaucoup déçus, les Portugais, on n'avait aucune idée de sa taille, ils ont quand même trouvé une route qui était rentable pour atteindre les îles à épices, les Moluques en particulier. Mais l'idée de partir vers l'ouest pour faire le tour de la Terre, à condition de compter très court, hein, une toute petite Terre, que l'on se trompait complètement. Et les gens savants à l'époque disaient « il est fou hein, ». C'est pour ça que le Portugal n'a pas financé son projet. Parce que le roi du Portugal avait de bons conseillers scientifiques. Mais on ne savait pas qu'il y avait une Terre au milieu. C'était ça la différence. Donc en allant vers l'ouest et en butant sur l'Amérique, il s'est produit effectivement quelque chose qui était totalement innovant. En fait, on avait une idée de l'Amérique, non seulement les Vikings y avaient été, et ça laissait des souvenirs, les pêcheurs, beaucoup de pêcheurs européens, entre autres des Basques, allaient jusqu'au banc de Terre-Neuve, donc de temps en temps abordaient pour faire de l'eau, pour réparer leurs bateaux. Donc c'était pas inconnu, le mot Antilles existait par exemple, hein, même, c'est pas très bien, c'était des îles mythiques, mais et surtout les Européens avaient pris pied depuis un bon siècle dans les îles de l'Atlantique, Madère, les Canaries, les Açores. Et pourquoi avait-il fait ça? Pour avoir des îles à sucre. Fondamentalement, c'était ça. Parce que ce qui leur manquait, c'était des produits tropicaux, qu'ils appelaient épices, qui n'arrivaient pas à faire pousser chez eux. Le plus classique, le plus connu, le plus demandé, c'était le sucre. Mais c'était vrai, évidemment, pour tout ce qu'on appelle encore aujourd'hui épices. J'ai évoqué girofle pour les Moluques, poivre, bien sûr, etc. Donc, cette recherche de produits tropicaux était due au fait que l'Europe, coincée au nord de la Méditerranée, était dans des terres avec hiver. On revient à cette question du froid. Ces terres avec hiver fait que, par exemple, un plant de canne à sucre, qui a un cycle de vie de 15 à 18 mois, ben, ne peut pas pousser. En Europe, on a essayé, hein, on connaissait les techniques, et ça n'a pas marché. Mais inversement, dans les îles à sucre toutes petites, qui étaient Madère ou les Açores, ça a marché. Mais c'était peu de choses. Donc, ce que les rois catholiques ont demandé à Colomb quand il est revenu en 1493, lors de son premier voyage, premièrement, y a-t-il de l'or? C'est évidemment question importante. Et deuxième, y a-t-il des épices? C'était pas loin d'être la même question, d'ailleurs. Parce que l'or servait à acheter des produits.
Oui, vous insistez aussi sur le rôle de l'or et de l'argent. Et le fait qu'on avait déjà à l'époque, quand je dis on, c'est l'Europe, une balance commerciale très déficitaire, voilà. Et que tout notre argent et tout notre or partaient déjà.
Parce qu'il y a une manifestation, on ne l'a pas dit, mais un des trucs qui témoigne plus de l'existence de l'axe, des échanges de l'axe que de l'ancien monde que j'évoquais, c'est que c'est là que s'est imposé, sans que personne l'ait décidé, c'est vraiment la norme comme ça qui s'est faite, parce que c'était pratique, l'utilisation comme matière première de la monnaie, d'utiliser ce qu'on a appelé les métaux précieux, or, argent, éventuellement le cuivre ou quelques alliages. Ailleurs, on pouvait très bien connaître la métallurgie de l'or et de l'argent, c'était parfaitement le cas des Amérindiens, entre autres des Aztèques, des Incas, des Mayas, mais ne pas en faire la base de la monnaie. Mais toutes les sociétés ont des monnaies, mais c'est des coquillages, des coris, c'est des cabosses de cacao, c'est des plumes, ça peut être des tas de choses, c'est une autre matière première. Mais pour l'ancien monde, puisqu'on échangeait beaucoup, finalement, arrivé à cette pratique, c'est à peu près vers le 5e, 4e siècle avant notre ère, que les Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Méditerranéens utilisaient de l'or et de l'argent pour échanger. Et donc, ça circulait. Comme les Européens étaient demandeurs de produits tropicaux, ben, ils étaient déficitaires, puisqu'ils ne vendaient pas forcément, ils vendaient des produits, bien sûr, mais ils ont du verre, par exemple. Mais ils ne vendaient pas forcément beaucoup de produits suffisamment. Et donc, c'est exactement l'inverse de la Chine, qui, elle, vendait de la soie, du thé, d'autres, de la porcelaine plus tard, mais n'achetait pas beaucoup.
Exactement. Ça me rappelle un schéma actuel.
C'est une certaine pérennité. Hein, on va effectivement le voir.
Ça s'inscrit dans le temps long, quand même, là.
Là, on est dans le temps très long. Oui, si on sautait au 19e siècle et aux guerres de l'opium, on serait en plein dans ce schéma-là. Donc, les Européens ont trouvé des terres tropicales où la canne à sucre pouvait pousser. Dès le deuxième voyage de Colomb, on emmène des plants de canne à sucre pour voir si ça marche. Et ça marche aux Antilles. Et puis, on va... Alors, ça mettra du temps. Ça mettra une trentaine d'années. On découvrira qu'il y a de l'or et de l'argent.
Alors, avec cette mainmise de l'Europe sur le Nouveau Monde, qui est très bien expliquée dans votre ouvrage, on a tout un ensemble de mécanismes, de mécaniques économiques, démographiques, technologiques, qui mettent l'Europe tout d'un coup au centre du monde. Ce qu'elle n'était pas avant, elle était que la partie occidentale de cet axe, avec d'autres empires au moins aussi puissants. Et tout d'un coup, c'est quoi les mécanismes qui ont fait que tout d'un coup l'Europe, qui était qu'un petit ensemble de nations, s'est retrouvée au centre du monde en ayant mis la main sur l'Amérique ?
Alors, oui, il faut bien voir que sur les grands ensembles, enfin, à l'intérieur de l'axe, d'où devaient sortir nécessairement les autres connexions. C'était difficile. On peut faire une hypothèse polynésienne, éventuellement, puisque je fais quelques uchronies, mais ils sont trop peu nombreux pour que vraiment... Ils étaient vraiment trop peu nombreux, mais c'était les plus grands navigateurs de l'histoire, avant les Européens. Ça, c'était considérable, les navigations polynésiennes. Mais il faut pas oublier, de Madagascar à l'Amérique, hein, c'est deux tiers à peu près de la circonférence terrestre. Mais les Européens n'étaient pas une société aussi nombreuses que la Chine ou les mondes indiens, étaient techniquement moins, comme je l'ai évoqué pour Cheng He, étaient techniquement peut-être moins développées que ne l'était, y compris en astronomie. Notre prochain atlas sera l'atlas du ciel, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, un ensemble de sociétés qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait le plus. Alors, il y a une particularité, c'est vrai que l'Atlantique, c'est moins large. Mais c'est pas décisif, parce que si on passe par le nord du Pacifique, c'était tout à fait un scénario possible pour aller en Amérique. Hein. Les pêcheurs japonais y allaient, d'ailleurs. Donc, on peut imaginer d'autres contacts. Et tous ces autres contacts ont existé, peut-être même à partir du Mali. Hein. C'est pas impossible qu'il y ait eu des contacts. Mais ce qui a été décisif, c'est cette arrivée massive des Européens. Massive, c'était quelques milliers de personnes, hein, au départ. Mais surtout massive de microbes, de cochonneries diverses, des maladies qui étaient celles de tout l'ancien monde. Ça avait été Cheng He qui était arrivé, ça aurait été pareil. Le résultat, c'est que la population amérindienne, qu'on estime entre 50 et 80 millions d'habitants au 15e siècle, c'est-à-dire à peu près 20% de la population mondiale, eh bien, ces populations ont perdu 90% de leur effectif au 16e siècle. Bon, le processus est un peu différent d'un groupe à un autre. Quand ils étaient très dispersés en Amérique du Nord, ça a été plus lent. Quand ils étaient denses, comme le monde Inca, par exemple, le monde Aztèque, ça a été rapide. Entre 1530, en gros, juste à l'arrivée de Pizarre dans l'Empire Inca, et 1700, 90% des habitants de l'Empire Inca ont disparu. Ça a été la plus grande catastrophe démographique de toute l'histoire, largement involontaire. Hein. Je ne vais pas parler de génocide, c'est un phénomène énorme. Sans ce phénomène-là, on ne comprend pas la mainmise européenne sur l'Amérique. Parce que techniquement, ils n'avaient pas, pas des moyens techniques. Au 19e, on disait, bah oui, ils avaient des cuirasses en acier, ils avaient la poudre à canon. Bon, bah, très vite, les combattants aztèques ou incas, qui étaient d'ailleurs pas des manches, hein, ils ont très bien compris que le cheval, on pouvait le tuer, que le canon, ça tirait un peu, mais c'était pas si méchant que ça, puis ça disparaissait, ça s'abîmait vite, que l'acier, c'était solide, mais que leurs armes à eux n'étaient pas inefficaces, et qu'ils étaient infiniment plus nombreux. Mais effectivement, c'est l'effondrement démographique et tout le contexte psychologique hein, qui se produit d'ailleurs avant même l'arrivée des Européens au Pérou, c'est très net. Lorsque Pizarre arrive, l'Empire Inca, il est en plein effondrement. Parce que tous les souverains sont morts les uns après les autres. Toute la classe dirigeante est morte parce que c'est ceux qui sont le plus en contact. Donc ça s'est produit d'ailleurs un petit peu avec le Covid, ce genre de phénomène. C'est au départ les dirigeants, les voyageurs, ceux qui ont le plus de connexions, qui sont le plus infectés par les microbes. Donc la société sans cadre était en pleine guerre civile. Ah, c'est comme ça que, alors que Cortés avait été un habile stratège, Pizarre, qui était un soudard qui fonçait, il s'est emparé de l'Empire, Inca pratiquement sans coup férir. Hein. Voilà, donc on ne peut pas imaginer cette réussite européenne sans ça. Mais ça aurait été la même chose si ça avait été des Turcs, parce que je signale que les Turcs se sont posés la question après, au début du XVIe siècle, hein, si ça avait été des Turcs, des Indiens, des Chinois, des Japonais, ça aurait été le même phénomène. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à l'intérieur de l'Ancien Monde, de cet axe de l'Ancien Monde, vous avez deux types de configurations géopolitiques. Celles qui sont des empires, avec une autorité centrale forte, et celles que Braudel, d'ailleurs, ça je l'emprunte totalement à Braudel, appelle des économies mondes. Des mondes qui ont une unité culturelle, par exemple la chrétienté latine, mais qui n'ont pas d'unité politique. Il n'y a pas un chef politique de l'Europe. Il y en a plein qui sont candidats, hein, Charles Quint, François Ier, bon, à cette époque-là. Mais ça ne marche jamais, parce que tous les autres sont en coalition contre lui. Donc il n'y a jamais, pour l'histoire européenne, après Charlemagne, ni Louis XIV ni Napoléon n'ont réussi à véritablement dominer, unifier complètement l'Europe sous leur origine et en faire un grand empire, où ça durait très très peu. Tandis que la Chine, plus tard la Russie, mais le monde iranien, le monde d'Inde du Nord, vous avez des empires puissants, durables, alors la Chine étant évidemment le comble. Mais il y a une raison sans doute, c'est qu'ils sont tous en rapport avec le monde des steppes. Ils ont tous à se protéger des cavaliers. Évidemment, la Chine encore, avec sa grande muraille, c'est un parfait exemple. Mais toute l'histoire chinoise, c'est celle d'une unité nécessaire pour lutter contre ce monde des steppes, qui va expliquer l'histoire russe, qui va expliquer l'histoire iranienne. Et souvent, ces empires, d'ailleurs, sont issus de conquêtes. C'était le cas dans l'histoire chinoise, par plusieurs fois. Mais c'est le cas dans l'histoire indienne, les Moghols. C'est le cas dans l'histoire de la Méditerranée orientale, l'Empire ottoman, par exemple. Donc, vous avez ce... Ou alors, c'est des réactions contre ces Tatars, aurait dit. Une belle réaction, l'Empire russe, ou l'Empire séfévide, l'Empire iranien, ou les Ming, qui sont une réaction contre les Mongols. Donc, vous avez des histoires impériales. Dans un empire, on le voit en 1432 avec Cheng He, quand on arrête une entreprise, ben on l'arrête. Inversement, Colomb se fait claquer la porte par le roi du Portugal, ben il va voir les rois catholiques. Là, il va au plus près. Mais il envoie son frère voir le roi de France, puis lui dit, si ça marche pas avec le roi de France, va donc voir le roi d'Angleterre. Dans ce monde polycentrique, dans ce monde où il y a plein d'autorités, ben les sociétés, les États, d'ailleurs, déjà, jouent les uns contre les autres, à l'intérieur de l'Europe. Donc la conquête coloniale, c'est largement ça, ce qu'on a appelé au 19e la course au drapeau. Quand il y en a un qui y est, bah, les autres essayent d'y aller. Ça a été vrai en Amérique. Hein. Dès le début du 16e, hein, les Anglais, les Français ont essayé d'avoir des bouts d'Amérique. Donc on a là quelque chose qui donne une dynamique qui va durer.
Je suis obligé d'avancer parce que on aurait pu parler comme ça des heures. Du coup, je vais rebondir là-dessus sur qui a duré. Donc, l'Europe s'est mise au centre du monde, mais a joué un rôle central dans les dynamiques des échanges mondiaux. L'Europe a perdu ce rôle-là en 14, en se sabordant par la guerre intestine de 14-18. Vous datez la fin de cette hégémonie européenne. Mais la mondialisation, elle est en place. Le modèle d'État-nation européen est devenu une sorte de norme. On a maintenant une espèce de puzzle de nations à l'échelle mondiale. On a donc une économie monde à l'échelle mondiale. Et du coup, ce sera ma dernière question. Du coup, c'est quoi les dangers de cette économie monde dans laquelle on s'est engagé par rapport à un passé qui était vraiment avec des sociétés vraiment différentes où là, on a tout unifié.
Alors, j'ai combien d'heures, là, moi,
bah, théoriquement, 3 minutes.
Oui.
C'est court. Bon,
pour dire à l'essentiel, on a créé un monde totalement interdépendant. On est complètement dépendants les uns des autres. Y a énormément de sociétés dans le monde qui peuvent absolument pas se nourrir. Qui peuvent pas, même si en ayant... Là, ils risquent pas d'être localistes. Hein. Je trouve qu'il y a pas longtemps, j'étais en Égypte. Hein. Voilà un bel exemple. Près de 107 millions de personnes, alors que c'était autrefois le grenier à blé de l'Empire romain. Oui, mais il y avait 2 millions de personnes dans la zone extrêmement cultivable de la vallée du Nil. Aujourd'hui, elle est urbanisée. Et donc, ils vivent de blé ukrainien et russe. Alors, aujourd'hui, ils en vivent mal, hein, d'ailleurs. Vous avez une société qui, nécessairement, ne peut qu'échanger. Alors, remarquez, si on voulait rester franco-français, je pourrais vous dire d'où vient la nourriture des 870 000 habitants de la Réunion. Bah, très peu de la Réunion. C'est pas possible. De volcans, hein, c'est pas... Donc, vous êtes dans un monde où, nécessairement, on est en échange et interdépendance. Or, nous sommes toujours au pluriel. Je veux dire, par là, nous sommes toujours des sociétés. Il n'y a pas une société mondiale. Il y a des efforts pour créer une régulation mondiale, qu'on appelle l'international. Mais justement, le poison, c'est qu'on est resté sur une structure géopolitique qui est celle du pluriel des sociétés, des États, on dit des nations dites unies. Donc, vous avez ce jeu qui est le jeu de la géopolitique. Et à partir de là, effectivement, c'est assez difficile d'organiser au minimum, ne serait-ce que pour répondre au problème central, puisqu'il reste très peu de temps, qui est de gérer au mieux la planète et notre environnement, ce petit espace. Hein, ici, j'ai pas de projection, mais j'aime bien montrer que nous vivons entre moins de 100 mètres et plus 8 km. La vie, c'est ça. Il y a très peu de vie au-delà de 8 km d'altitude. Quelques oiseaux peuvent atteindre... Bon, alors nous, on y a envoyé des satellites, hein, mais des avions, on est déjà un peu plus haut. Mais c'est très court, ça ne dure pas. Et puis, en profondeur, au-delà de 200 mètres dans la mer, il n'y a pratiquement plus de vie. Très, très peu de choses. Hein. Alors, descendre, puis remonte. Hein. Alors, dans la Terre, c'est encore moins de choses. Donc, sauf quelques mines, on peut descendre à 3 km. Mais enfin, donc, on vit dans une toute petite pellicule. La biosphère, comme on dit, c'est en fait une minuscule pellicule. Donc, il faut la gérer au mieux, cette pellicule. Hein. Et on revient à mon coup des missiles en Ukraine que j'évoquais d'entrée tout à l'heure.
Je vous remercie beaucoup. Et alors, juste pour conclure, un chiffre, parce que vous dites qu'on n'a pas parlé de cette démographie, mais il y a un chiffre quand même qui m'a frappé, qui revient aussi à ce que vous dites sur la capacité à se nourrir. Vous dites que si on fait la somme de tous les humains qui ont vécu sur Terre, au 21e siècle, il y a un quart des humains de toute l'histoire de l'humanité qui ont vécu au 21e siècle. Oui. Je finirai là-dessus, parce que c'est quand même très étonnant de se dire qu'en un siècle, on aura... Un quart des humains qui ont vécu sur Terre seront concentrés dans ce siècle-là.
L'historien Pierre Chaunu s'était demandé combien il y aurait de monde au moment du jugement dernier. En gros, on peut le voir comme ça, hein, si vous voulez. Alors, si on place le jugement dernier en 2100, vous allez me dire que c'est peut-être pessimiste, hein, mais ou optimiste, je ne sais pas. Dans 2100, bah, on aboutira à peu près à 80 milliards. Hein, c'est ça, 80 milliards d'âmes, si vous voulez, enfin 80 milliards d'humains. Et à ce moment-là, au 21e siècle, bah, on aura été 20 millions à peu près, c'est-à-dire un quart à peu près. C'est-à-dire qu'on se reconnaîtra. Bon, je pense que M. Cro-Magnon sera un peu perdu.
On est tout seul. Hein.
Mais nous, on sera beaucoup plus familiers.
On aura plein de copains. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cet échange très riche, cette odyssée à laquelle vous nous avez invités. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant aux éditions des Arènes, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. comprends mieux après cet échange pourquoi vous l'avez intitulé comme ça. Et on peut retrouver évidemment ce livre à la librairie Mola, sur mola.com et au fond de la salle pour une séance de dédicace. Christian Grattalou, je vous remercie.
Merci à vous.